À François Ruffin, d'où vient cette pulsion protectionniste? Quand est-ce que ça vous a pris?
Ça a commencé pour moi notamment en 2007, puisque en 2007 on s'était rendu à l'Assemblée Générale de LVMH avec Marie-Hélène Bourlard, qui était déléguée CGT de l'entreprise de confection et commercialisation européenne, un sous-traitant de LVMH qui fabriquait des costumes hommes Kenzo pour 80 € par costume. Ces costumes étaient vendus 990 € dans les magasins Kenzo, donc ça laissait une marge appréciable, mais encore insuffisante, avait estimé la direction de LVMH, puisque en faisant fabriquer les mêmes costumes en Pologne, ils reviendraient non plus à 80 € mais à 40 €. Et donc Marie-Hélène Bourlard était intervenue en Assemblée Générale de LVMH et avait dit, écoutez, monsieur Arnaud, il y a 147 emplois qui dépendent de vous. Plutôt que d'augmenter les dividendes, vous devriez nous aider à sauver nos emplois. Et la réponse de Arnaud à l'époque, elle avait été très simple. Elle a dit, moi, je ne suis pas responsable des problèmes qui sont structurels à l'évolution de cette mondialisation, de cette européanisation. Et c'est lui-même qui détachait les syllabes en parlant de mondialisation et d'européanisation. Et je pense que là, il me révélait à moi, mais il révélait à tous les auditeurs, il révélait à tout le monde le socle sur lequel son pouvoir était assis, à savoir cette capacité, et il s'en expliquait plus largement dans son livre « La passion créative », cette capacité à jouer la concurrence entre les États pour diminuer les normes fiscales, afin que l'ISF disparaisse, pour diminuer les normes sociales et pour combattre éventuellement les normes environnementales. Donc à partir de ce moment-là, il s'est éveillé le fait que, en tout cas, le libre-échange, et ça, je pense que ça fait l'unanimité à peu près dans la gauche critique, le libre-échange est un mal, mais que l'un des moyens, le moyen le plus direct pour combattre ce mal, c'était éventuellement d'en passer par des barrières douanières, des protections tarifaires et ainsi de suite.
Oui, mais sauf que vous savez très bien ce qu'on pense quand on dit protectionnisme, on pense nationalisme, repli, autisme.
Mais de toute façon, tout le savoir-faire du camp d'en face, du capital, ça a été de transformer ce qui n'est qu'une option économique, c'est-à-dire que c'est comme les impôts, finalement, on pourrait dire plus ou moins d'impôts sur les sociétés, plus ou moins de barrières tarifaires, c'est juste un outil économique. Ils ont réussi à transformer cet outil économique en une valeur morale. Mmh. Et si vous êtes, pour les protectionnismes, vous êtes un raciste, un xénophobe, un nationaliste. En revanche, si vous êtes pour le libre-échange, vous êtes pour le métissage, vous êtes pour la libre circulation des idées. Et ce qui est quand même extrêmement paradoxal, c'est que aujourd'hui, le protectionnisme, il existe. Mais il n'existe pas pour les capitaux, il n'existe pas pour les marchandises, il existe pour les hommes et les hommes pauvres du Sud. Et là, manifestement, quand on instaure des vrais murs au niveau de l'Europe avec l'Afrique, quand il y a des patrouilles qui vont jusqu'en Libye, jusqu'en Mauritanie pour contrôler l'immigration, lorsqu'on fait la même chose en Amérique en instaurant un mur entre le Mexique et les États-Unis, lorsqu'il y a des centaines de morts sur ces murs-là, on ne parle pas de tentation ou de pulsion protectionniste. Or, ce protectionnisme-là sur les hommes et sur les hommes pauvres, il existe. En revanche, dès qu'on aurait l'idée d'avoir des taxes douanières sur les pommes de douche, par exemple, ou sur les pneus en caoutchouc, c'est à ce moment-là qu'on deviendrait des racistes, des xénophobes, et ainsi de suite. On voit bien là à quel point ils ont fait de ce qui n'est qu'une option économique, une valeur morale. Parce que, évidemment, la gauche n'aurait pas pu accepter. La gauche était contre le libre-échange. Elle ne pouvait pas accepter ce libre-échange en tant que tel. Donc, il a fallu le déguiser pour la gauche. Et le déguisement qu'on a mis pour le faire accepter à la gauche, c'est le faire revêtir de cette couleur idéologique, de c'est pour la libre circulation des idées, de la musique, pour le métissage, ce contre quoi, évidemment, je n'ai rien, mais ce n'est que l'habillage, c'est l'habillage qu'ils nous ont donné dans les grands médias pour la libre circulation des capitaux et des marchandises.
10 mai 2007, Assemblée générale des actionnaires de LVMH. La syndicaliste Marie-Hélène Bourlard interpelle Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France.
Alors là, Marie-Hélène Bourlard et Emmanuel Charton protestent auprès de l'hôtesse parce que Bernard Arnault vient d'annoncer la dernière question et qu'elles n'ont pas pu poser la leur. Alors Marie-Hélène Bourlard, qui a fait 200 km pour poser sa question à Bernard Arnault. Non, c'est la dernière question. Donc, la question ne sera pas posée. Alors Marie-Hélène Bourlard s'avance dans les allées, elle se dirige vers l'estrade.